Au Lambert Café, avec grand plaisir, je bavarde avec Dr. Annick Vincent. Bonjour, Dr. Vincent.
Oui, bonjour.
Dr. Vincent, j'ai un beau livre et le titre, c'est « Mon cerveau a encore besoin de lunettes », avec comme sous-titre le TDAH chez les ados et chez les adolescents et les adultes. On est habitué à entendre parler du TDAH chez les enfants. Et vous venez juste de m'apprendre qu'il y a un autre livre que vous aviez écrit sur « Mon cerveau a besoin de lunettes pour les enfants ».
Oui, effectivement. Alors, ces livres-là existaient depuis 2007 et nous les avons complètement réédités. Je les ai revisés à la lumière de mon expérience personnelle dans les 10 dernières années, mais aussi de l'expérience collective des collègues qui travaillent dans le domaine, mais aussi de tout le côté scientifique qui s'est développé. On en connaît beaucoup plus sur le TDAH. Alors, la nouvelle édition de « Mon cerveau a besoin de lunettes » puis « Mon cerveau a encore besoin de lunettes » vient de sortir en librairie. C'est des livres qui s'adressent vraiment à tous. Donc, celui qui s'appelle « Mon cerveau a besoin de lunettes » est dans un langage, je dirais, qui peut s'adresser à l'enfant. Il est convivial, il est agréable à regarder, coloré, il y a des dessins d'enfants dedans. Ça explique un peu, à travers l'histoire fictive d'un petit garçon, le vécu d'un enfant avec un déficit d'attention, avec sans hyperactivité. Et la nouvelle version, je dirais, met aussi l'accent sur, il y a quelques questions, par exemple, les parents peuvent se poser par rapport à est-ce que la médication va brimer la créativité de mon jeune ou des choses comme ça.
Mm-hmm.
Et ça reste quand même un livre qui est non menaçant, qui est un livre d'introduction au TDAH, qui peut servir, par exemple, dans les écoles pour aider à démystifier ce que c'est, à en parler aussi à grand-maman, grand-papa, certainement en parler avec le jeune et ses proches, comme le frère et sœur, par exemple. L'autre livre, « Mon cerveau a encore besoin de lunettes », est un ouvrage qui s'adresse donc aux grands. Donc, ça va être l'adolescent, ça va être l'adulte qui a lui-même un déficit d'attention, qui a des questions par rapport à ce que c'est, comment il peut faire pour mieux vivre avec, comment se fait le diagnostic, qui fait un diagnostic, c'est quoi la place de la médication, est-ce qu'il y a d'autres stratégies. Donc, on fait le tour de tout ça, tout en gardant, là, je dirais, un regard très scientifique par rapport à l'information, mais dans un langage qui est accessible à tous. L'information qui est dedans, c'est vraiment une information qui est à la fine pointe. Des étudiants en médecine qui feraient leur cours aujourd'hui en apprendraient. Donc, on a vraiment fait l'effort d'outiller les gens pour qu'ils aient entre leurs mains un bel ouvrage là, qui va leur donner plus d'informations, puis permettre, j'espère, de casser certains mythes par rapport au déficit d'attention, de donner aux gens les outils dont ils ont besoin pour développer leur plein potentiel, puis permettre aux gens qui les côtoient d'avoir des stratégies pour les appuyer là, dans leur cheminement.
Vous êtes spécialiste du TDAH depuis plus de 20 ans. Ça a changé beaucoup, même qu'il y a 20 ans, nous, on ne connaissait pas ça, le TDAH.
En fait, on connaissait le TDAH, mais on l'appelait autrement. On les appelait, si on regarde dans les années 70, le TDAH, on parlait à ce moment-là le syndrome de l'enfant hyperkinétique. Donc, on faisait vraiment l'accent sur la bougeotte, hein, le côté moteur, le côté visible du TDAH. Dans les années 80, on a reconnu les impacts du déficit de la modulation de l'attention, hein, qui vont en donner des erreurs de l'attention, des difficultés à rester attentif longtemps, des erreurs sur la tâche, une difficulté à s'organiser, une procrastination, faire des oublis, une difficulté aussi, là, sur le plan donc cognitif. Là. Et ça, c'est des symptômes beaucoup moins visibles, hein, faciles à voir. Donc, souvent, si on parle dans les années 80, les gens, ils les avaient, ces symptômes-là. Mais nous, en médecine, on ne les reconnaissait pas.
D'accord.
On ne reconnaissait pas l'impact de ces symptômes-là. Là, le recul qu'on a dans les 30 dernières années, c'est qu'on sait que le TDAH, le H, là, il est tout le temps là en passant. Tu peux avoir juste l'hyperactivité des idées qui va faire que tu as des symptômes d'inattention. Hein? Mais donc, c'est pour ça qu'on parle tout le temps maintenant du TDAH, virgule inattention, virgule hyperactivité, impulsivité, ou encore ceux qui ont la totale, là. Mais ça existait. Le TDAH, ça existe depuis toujours. C'est juste qu'on on connaît mieux ce que c'est aujourd'hui.
Et l'enfant TDAH va devenir un adulte TDAH aussi.
Bien sûr, en fait, on arrive au monde avec un TDAH. Ça ne veut pas dire qu'on fait le diagnostic en la pouponnière, là. Mais donc, la personne qui a un déficit d'attention vit avec son déficit d'attention depuis qu'il est tout petit. Ce qu'on sait, c'est qu'à peu près le tiers des enfants qui ont un déficit d'attention auront beaucoup moins de symptômes à l'âge adulte. Pour plusieurs, les symptômes vont s'atténuer, particulièrement sur le plan de la bougeotte puis l'hyperactivité. Pour certains, même l'inattention s'améliore. Mais pour ceux dont les symptômes persistent, à l'adolescence puis à l'âge adulte, ce qui est la majorité des gens, ça vaut la peine de bien reconnaître les visages que le TDAH peut prendre à cet âge-là, des impacts que ça peut avoir dans la vie quotidienne, pas juste à l'école, mais dans par exemple, l'organisation dans ses routines, l'impact que ça peut avoir au niveau de l'hygiène de vie, les troubles de sommeil qui sont associés au TDAH. Mm-hmm. 10% des adultes ont des problèmes de sommeil. On peut avoir des impacts aussi sur la conduite automobile, au niveau du travail, au niveau des relations interpersonnelles. Mais ces gens-là, c'est aussi des gens extraordinaires, donc ça serait le fun qu'ils puissent être outillés pour savoir, entre guillemets, comment mieux apprivoiser leur TDAH et être capables, finalement, de reconnaître ces symptômes, où sont les impacts, quelles sont les stratégies qui peuvent m'aider pour qu'à ce moment-là, la personne qui a un TDAH puisse développer son plein potentiel.
J'ai entendu quelques adultes parler justement qu'ils vivent avec ce symptôme et puis ils en étaient presque fiers.
En fait, on a de quoi être fiers de qui on est, OK?
OK.
Ça, faut le savoir. Maintenant, le TDAH en tant que tel, il y a un T pour trouble dedans.
Ouais.
Si la personne a un TDAH et a réussi, je dirais, à l'apprivoiser puis à l'arnacher, le côté bougeotte canalisé peut peut-être faire en sorte que le côté d'avoir un peu plus d'énergie que tout le monde, ça peut être intéressant, mais c'est une balle à deux tranches, une arme à deux tranches,
ouais.
Je peux dire. Là où est-ce que c'est intéressant, c'est le côté créativité. Les gens qui ont un TDAH ont souvent une façon novatrice de voir les choses, ils vont trouver des solutions plus, entre guillemets, out of the box, là.
OK.
Par contre, le fait qu'ils ont une difficulté à s'organiser et à poursuivre un projet plus longtemps en raison des symptômes de TDAH peut nuire à l'expression de leur créativité. Quand t'es trop pressé, quand t'es éparpillé, ben ta créativité peut pas s'exprimer de la même façon. Donc, ça peut être intéressant pour la personne qui a un TDAH et qui est créative d'aller chercher des outils pour que sa créativité puisse s'exprimer de façon là et la développer là à plein, si on peut dire.
Est-ce que en lisant, mon cerveau a encore besoin de lunettes? Je peux découvrir que j'ai ce symptôme?
Ben, en fait, ce qu'il faut faire attention, là, c'est qu'il ne faut pas avoir du TDAH partout. Faites la liste des symptômes. Tout le monde, à un moment donné, va faire un oubli, va perdre ses lunettes, va se demander où il a mis ses clés, va peut-être parler un petit peu plus vite ou avoir envie de bouger quand ça fait une heure qu'il est assis. Mm-hmm. Ça, c'est normal. OK? Donc, je pense que dans la lecture du livre, ce que j'ai voulu, c'est justement faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'il y a de l'énergie, qu'est-ce que ça n'est pas, qu'est-ce qui peut aussi empirer les symptômes ou faire que tu as l'air d'en avoir un, ce que j'appelle le pseudo-TDAH.
Okay.
Donc, on amène la réflexion sur les éléments qui peuvent amener un certain débalancement au niveau d'une fragilité attentionnelle qu'on peut avoir.
C'est vraiment passionnant, vous expliquer ça de façon extraordinaire, mais on peut aussi lire vos livres, vos deux livres. Rappelez-nous les deux titres.
En fait, c'est « Mon cerveau a besoin de lunettes » et « Mon cerveau a encore besoin de lunettes ». Pour ceux qui sont intéressés, on a aussi une formation web qui est gratuite, qui est sur une plateforme qui s'appelle savoirmieuxêtre.com. Et sur la plateforme, on y retrouve un cours grand public qui est gratuit sous forme de capsule vidéo qui s'appelle TDAH VIP pour vidéo d'information professionnelle. Puis on vient de mettre au monde, je dirais, le volet pour les professionnels de la santé. On a un cours de 7 heures pour les professionnels de la santé qui est aussi accessible en ligne et gratuit. Et il y a 2 semaines, on a mis en ligne « Trucs à tout pour les devoirs et les leçons » pour les parents de jeunes qui ont un TDAH ou pas, mais qui en arrachent au niveau des devoirs et des leçons. Donc, on outille le parent ou les parents à mieux encadrer leurs jeunes et sorte que les devoirs et leçons redeviennent une période agréable et d'apprentissage.
Un gros, gros merci, Dr. Annick Vincent.
Ça fait plaisir.
Au revoir.